Le Christ est ressuscité. Ah, c'est pas mal. On le refait une fois. Hein. Le Christ est ressuscité. Bravo. Voilà. Ça s'appelle le kérigme. C'est un cri. Chers frères et sœurs, c'est assez troublant la manière dont le Seigneur se manifeste dans notre histoire sainte. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans la première lecture, c'est Pierre qui est chez Corneille. Corneille, c'est un païen, c'est un romain de l'armée d'occupation. Et Pierre va chez lui, et alors c'est absolument stupéfiant. Les apôtres, avant la Pentecôte, étaient muets comme des carpes, et après la Pentecôte, ils deviennent bavards comme des pies. Et vous avez des discours qui n'en finissent plus, qui emplissent notamment les Actes des apôtres, et c'est très intéressant. Alors voyons un peu comment Dieu s'est révélé. Vous vous souvenez peut-être que auprès des Hébreux, et on en a fait beaucoup de films d'ailleurs, hein, dernièrement Exodus que certains d'entre nous sont allés voir, eh bien, il ouvre la mer, il y a des murailles d'eau de chaque côté, et puis il y a le vent qui souffle pour chasser l'eau. Il y a les Hébreux qui passent au milieu. Et pour bien montrer qu'il est Dieu, tout reflue sur les méchants. Et c'est terminé et c'est réglé. On sait qui est Dieu et c'est clair. On continue un petit peu. Quand Moïse va monter sur le mont Sinaï, qu'est-ce qui va se passer? Tremblement de terre, éclair, le doigt de Dieu, c'est peut-être Cécile B2000 dans les 10 commandements qui rajoute ça, mais qui écrit avec du feu les tables de la loi, c'est spectaculaire, ça peut faire effectivement de bons effets spéciaux. Et puis, continuons la Bible, à Élie, dans quoi va-t-il se manifester? Il va plus se manifester dans le tremblement de terre, dans les éclairs, mais dans la brise légère. Et continuons encore un petit peu. Jésus, comment se manifeste-t-il? Où est sa théophanie? Il se met à genoux, il prend une bassine, il prend un torchon et il lave les pieds de ses disciples. C'est moins glorieux, c'est moins spectaculaire. Et puis, ultime manifestation, la croix. Et aujourd'hui, je dirais, ce n'est même plus un homme, le Saint de Dieu, mais c'est un pécheur. C'est Pierre qui parle, et le seul lieu où nous pouvons trouver la manifestation de Dieu, c'est dans ce discours. C'est dans cette parole, et vous le savez bien, en plus, Pierre est loin d'être un saint, au moins à ce moment-là. On connaît son histoire, on connaît ses coups de gueule, on connaît sa lâcheté. Eh bien, c'est lui qui parle, et dans son discours, Dieu est là, dans le kérigme, Dieu est là. Quelle déperdition entre cette théophanie du mont Sinaï ou du passage de l'Exode et ce discours de ce pauvre homme, un pêcheur de Galilée, pas très lettré. Il a sans doute eu besoin de Saint-Marc pour pouvoir écrire ses lettres. Et voilà, c'est lui sur qui repose la présence du Christ au milieu de nous. Voilà, mais c'est Dieu qui lui a demandé de parler. Et c'est ça qui change tout. Cette parole devient maintenant donc ce signe du Christ. J'aimerais voir avec vous, chers frères et sœurs, que le seul moyen aujourd'hui que la résurrection se fasse, se ferait un chemin au milieu de nous, c'est notre parole. Et la tradition donc l'appelle le kérigme, kérusso. En grec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire crier. C'était le cri du héros qui annonçait une victoire. Pensons à Marathon, hein, qui est devenu célèbre. Eh ben, Marathon, on a gagné la bataille. Un soldat s'échappe pour aller jusqu'à Athènes, prévenir qu'on a gagné. Il faut qu'il le prévienne, parce qu'en même temps, la flotte, elle va doubler le cap Sounion pour attaquer Athènes de l'autre côté. Donc il faut qu'il aille vite. Mais comment les Athéniens auraient-ils pu connaître la victoire s'il n'y avait pas eu un héros, s'il n'y avait pas eu un annonceur? Voilà, s'il n'y a personne pour l'annoncer, eh bien la victoire de la résurrection, à quoi sert-elle? Je me disais aussi, chers frères et sœurs, très bien, mais à qui l'annoncer cette résurrection? C'est très beau de l'annoncer au monde, mais il me semble que d'abord, nous devons nous l'annoncer à nous-mêmes. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par cette réplique, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Pourquoi cela? C'est pas un ping-pong verbal, à vos souhaits, merci, ça n'aurait pas beaucoup de sens. C'est que nous avons besoin, dans tout cela, de pouvoir nous dire à nous-mêmes cette résurrection. Si jamais nous ne nous le disons, eh bien le Christ va disparaître. Se prononcer les uns aux autres ce kérigme, se l'annoncer comme nous le faisons dans ces jours de Pâques, c'est essentiel. On croit trop que c'est un acquis. Or, nous avons besoin que cette parole résonne les uns par les autres, qu'elle résonne à travers nos visages, à travers nos paroles, à travers nos actions. Sinon, le Christ s'étiole, il n'est plus là, et l'Église s'anémie. Je crois que c'est capital parce que toute communauté se constitue par son langage. Quand on ne parle plus dans une famille, ça vole en éclats. Mais surtout, quand on ne parle plus le langage de l'amour, on peut s'envoyer des assiettes à la figure ou des insultes, c'est pas ça le dialogue qui va construire. C'est celui qui est fondé sur la réalité la plus profonde qui nous unit, l'affection familiale. Je pense, peut-être que vous l'avez vu, à un film, Le discours d'un roi. George VI, roi d'Angleterre, doit accéder au trône. Mais vous souvenez, dans sa famille, on ne parle pas. Il disait de sa famille, c'est une entreprise, c'est pas une famille. Eh bien, il est contraint de monter sur le trône, mais à force d'avoir si peu parlé, si je puis dire, d'avoir été si contraint, il est bègue. Il ne peut plus s'exprimer. Et il va rencontrer un orthophoniste australien, et la famille de ce monsieur est particulièrement joyeuse. La communication circule. Il y a des répliques, et même de Shakespeare, de l'un à l'autre, comme ça, comme si il disait ça, comme s'il respirait. Eh bien oui, dans cette famille, l'affection, la vie s'épanouissent. Vous voyez l'application qu'on peut en faire. Dans l'Église, si nous perdons l'habitude de nous communiquer cette bonne nouvelle, nous allons devenir bègue. Ce serait dommage de que le héros, l'annonceur, soit bègue et qu'il ne puisse plus annoncer avec enthousiasme et joie et facilité. Ce serait dommage aussi que ce langage de la charité se perde au milieu de nous. Voilà, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Cela veut dire que nous chassons définitivement du milieu de l'Église la tristesse. Bernanos disait, tout ce que nous faisons contre l'Église, nous le faisons contre la joie. Oui, l'Église, c'est le réceptacle de la joie parce que résonne sans cesse ce kérigme que nous nous disons les uns aux autres. Alors dans nos familles, ces petites églises domestiques, comme c'est important ça aussi, quelle doit être la matière de nos conversations? T'as vidé la vaisselle? T'es allé chercher les enfants? Au bout d'un certain temps, c'est pauvre. On se dit pas pourquoi on est fait. D'abord, il faut dire qu'on s'aime bien, Souvent, on a trop de pudeur. Et puis, il faut dire qu'on croit. Combien de pudeur nous avons dans les familles catholiques à prier les uns devant les autres, à échanger sur un texte biblique. Alors, bon Dieu, il est dans les hautes sphères. Mais alors, dans le quotidien, pas du tout. Quand on est allé un peu en Afrique ou dans d'autres pays, on voit combien plus la parole de Dieu imprègne le quotidien. Au Colombie, avant de partir à l'école, qu'est-ce qu'on fait? On récite le psaume 90 parce qu'on le sait par cœur. Voilà quelle est notre culture et la vivacité de cette vie chrétienne pour nous. Vous vous souvenez aussi, même dans notre manière de parler, de nous adresser, le Père Lamy, notre fondateur, quand il saluait quelqu'un ou quand on saluait quelqu'un dans sa région qui était la Haute-Marne, on disait « bonjour ». C'est normal. Et « bonjour la compagnie ». On saluait l'ange qui était avec celui qu'on saluait. C'est-à-dire qu'on rendait présent le royaume des cieux par cette petite réplique au milieu de nous. Ce royaume, il a besoin de notre parole. C'est pas une évidence, vous le savez bien. Je pense aussi en Allemagne du Sud. Comment est-ce qu'on se salue? Grüß Gott, que Dieu te salue, que Dieu te sauve, ça veut dire aussi. C'est beau de rendre Dieu présent dans nos répliques, dans nos échanges. Pour vous, chers parents, avant que vos enfants ne partent à l'école, est-ce que vous les bénissez? La petite bénédiction sur le front? C'est tout simple, avec le pouce sur le front. Vos enfants aussi peuvent faire la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ressuscité soit avec toi maintenant et dans toute ta journée et qu'il te protège. Quelle belle manière, chers frères et sœurs, de rendre le Seigneur ressuscité présent au milieu de nous. Vous savez bien que dans notre espace public, et malheureusement, on a même enlevé, vous savez bien, sur l'affiche des Olympiques, la croix des Invalides. Qu'importe. Mais il ne faut pas qu'on nous le retire, ce Seigneur, de nos conversations, de notre vie quotidienne, de notre imaginaire, de notre affectivité. Il doit tout imprégner puisqu'il est Seigneur. C'est si important. Enfin, vous le savez bien, cette parole, il faut nous la dire à nous-mêmes, certes, mais il faut la dire aussi à l'extérieur. Mais si nous la sommes dite à l'intérieur, alors on en débordera. Puisque quand quelqu'un me dit « Christ est ressuscité » ou qu'il l'évoque par toute son attitude, eh bien, il fait grandir en moi la foi. Il magnifie au sens propre du terme le Seigneur en ma propre personne. Et ce Seigneur, je vais en déborder et je vais pouvoir l'annoncer. S'il n'y a pas ce kérim qui résonne avant, l'évangélisation sera une formalité, sera un devoir, sera un poids inintéressant. Vous voyez, aujourd'hui, Pierre, il est tellement plein de ça qu'il va s'adresser à ce païen. Et puis, finalement, nous aussi, nous avons à voir à quel païen nous allons nous adresser aujourd'hui. Il y en a une multitude qui ne connaissent pas le Christ et qui l'attendent. Et qui l'attendent. Soyez-en sûrs, l'Esprit travaille les cœurs avant que nous leur annoncions l'Évangile. Mais si nous ne leur annonçons pas, l'Esprit aura travaillé en vain. Et ça, il ne le faut pas. Alors oui, quand nous l'aurons annoncé à quelqu'un, nous lui dirons « Christ est ressuscité ». Et après peut-être bien du temps, la formation catéchétique, la conversion de la vie, une vraie vie chrétienne, il pourra nous répondre « Il est vraiment ressuscité, alléluia, et j'en fais l'expérience dans ma propre chair, c'est pas quelque chose dans la tête ou de formel, mais c'est le plus profond de ma vie. » Alors qu'est-ce qui se passera? C'est que, à l'annoncer à l'extérieur, une joie immense aussi nous habitera. Je pense très profondément, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas goûter la joie de la résurrection si nous ne l'annonçons pas. Elle sera vaine. Alors à nous de nous retrousser les manches.